Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Benjamin Coria, professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés et auteur du Bien commun, le climat et le marché. Réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent. Léonidas Kalogiropoulos, PDG de Médiation et Argument, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. François m'écrit, le programme de gauche en 80 était aussi chiffré et soutenu par des économistes très sérieux. C'est vrai, y compris d'ailleurs celui de François Hollande, je me souviens. On a vu ce qui s'est passé après, mais à l'époque, l'endettement du PIB était de 20%, les marchés mondiaux n'étaient pas interconnectés et mondialisés comme aujourd'hui. Il y a Nicolas qui m'écrit, Nicolas Sarkozy n'a-t-il pas raison en disant que la France veut l'identité, la sécurité, l'autorité? Ce sont les fondations d'une société et les pouvoirs régaliens de l'État. C'est un élément qui ressort de la chronique que vous avez signée avec Pierre Gattaz, Léonidas. Laurent m'écrit, des riches en France, je crois rêver, ils sont déjà surtaxés. Un pays sans riches est un pays de pauvres. La France, le pays où on est puni de réussir, la gauche prend toujours aux autres ce qu'elle ne peut gagner, m'écrit Laurent. Bon, il y a plein de réactions. Laurent, je vous ai promis la parole, on y va. Et puis continue.
Merci.
À...
Merci de me donner le champ libre.
Mais voilà. Alors, le champ libre.
Monsieur Coria dit qu'au clair, je ne connaissais pas les chiffres, mais moi je les vis. C'est la grosse différence entre nous deux. Et il faut bien se rappeler que l'économie s'écrit en temps réel grâce aux entreprises. Donc je suis parfaitement au courant des chiffres. Mais moi, je ne suis d'aucun parti politique, je défends le parti de la concrétude. Et donc, moi je porte un regard sur les programmes économiques qui sont présentés et qui reflètent ce que je sens depuis à peu près une petite dizaine d'années. Parce qu'il faut bien se rappeler que l'entreprise, c'est un peu comme une gouttière. Et en plus, je suis une entreprise industrielle. Donc, je ne suis pas installé avenue Montaigne, je suis installé, ce n'est pas un problème, mais je suis installé à Argenteuil. Et on est une vraie pyramide, on est un vrai village gaulois. Et ce que je sens depuis 10-15 ans monter, c'est la polarisation de la société. Et je crois que ce qu'on vit actuellement reflète cette polarisation. Et ça, c'est jamais bon. Ça veut dire qu'en clair, plutôt que d'essayer globalement de vivre ensemble. Alors, je ne suis pas non plus d'une naïveté sans bornes et je ne pense pas qu'on va tous s'embrasser sur la bouche. Mais globalement, je dirais, je sens qu'il y a le camp des bons et le camp des méchants. Et ça, ça me déplaît parce que je pense que c'est porteur de très mauvaises nouvelles. Si le pays va bien, on espère et on souhaite qu'il profite au plus grand nombre. Simplement, je pense en mon âme et conscience que compte tenu des finances publiques, je rappelle que je ne suis pas l'avocat du gouvernement, mais enfin, M. Macron n'est pas arrivé dans un gouvernement avec une situation idyllique. Je veux dire que là, on arrive quelque part à peut-être à l'heure de vérité, qui j'espère ne sera pas violente, d'une politique de 30 à 40 ans.
C'est ce que disait François Eckhall lorsqu'il a été entendu par la commission sur la dette de Philippe Juvin. Il a expliqué que le supplément de dette qu'on attribue comme ça à Covid, non, la moitié est la dynamique de l'héritage du passé, explique François Eckhall, qui sait vraiment de quoi il parle. Voilà.
Mais par
il
contre...
exonère pas l'exécutif
donc,
de ses responsabilités,
clair, mais il explique je parle de ça non pas pour défendre le gouvernement, mais pour expliquer que finalement ce à quoi nous faisons face, c'est pas les choses qui, comme vous dites, se règlent avec un tout petit décalage du réostat. Ce sont des mouvements importants, des lames de fond importantes et malheureusement qui résultent à plus de 1300 milliards de dettes, ce qui donne mal à la tête à une aspirine. Maintenant, je voudrais donner une dernière remarque sur les gens intelligents qui connaissent et qui pondent des choses. Alors, je vais modestement mettre ma casquette Croissance Plus.
On est à 3 000 milliards de dettes.
Je le répète, oui, pardon, excuse-moi, 3 000 milliards.
Oui.
3100, oui, excusez, j'ai
un peu plus. Oui, 1003, c'était les dépenses publiques qui d'ailleurs sont plutôt à 1600 aujourd'hui.
C'est de la dyslexie économique. Mais depuis à peu près 25 ans, nous, on fait du lobbying auprès des pouvoirs publics.
Et Croissance Plus, non.
Voilà, et on est apolitique, je veux dire qu'on défend le parti de l'entreprise. Le nombre de gens que j'ai vu comprendre les choses, ils le comprennent parfois mieux que vous. Le mesurer, ils le mesurent mieux que vous. Avoir accès à de l'information auquel vous n'avez pas accès et qui, en clair, pour des raisons purement politiques et dogmatiques, ce qui est encore pire, prononce un avis qui est contraire au bon sens et à l'intérêt général, j'en ai vu un paquet. Donc pour moi, ça n'est pas une garantie et ça n'est pas quelque part un rail de sécurité. Et là, je pense qu'on vit un moment, on le sent bien d'ailleurs, il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'inquiétudes, je veux dire, ça discute partout, je veux dire que où vous alliez, je veux dire qu'aujourd'hui, les scénarios changent quasiment à l'heure, il y a ceux qui vont prévoir le pire, etc. Ce que je sais, c'est que on ne peut pas, je dirais, piloter un pays d'un point de vue économique avec de l'incertitude, avec du dogme, sans visibilité. Et là, je pense, aujourd'hui, avec ce que nous vivons, c'est-à-dire ce qui se passe avec la Chine, ce qui se passe avec les États-Unis, je rappelle qu'il va y avoir des élections bientôt, qui se passe avec la guerre se rapproche, la guerre est aux portes de l'Europe. Alors je sais bien que quand il fait beau et qu'on est à Paris et qu'on voit tout le monde à la terrasse des cafés, je dirais, on se dit, mais non, la guerre est loin. Mais non, la guerre n'est pas loin, c'est une réalité. Donc, quand on voit tout ça, je veux dire qu'il faut plutôt essayer d'être un parti de bon sens pour préserver nos acquis et pouvoir penser nos plaies, plutôt que de faire des grandes manœuvres à 180 degrés.
Il y a Alain réagit en m'écrivant que d'après lui, enfin il dit, considérant que je me trompe, la réaction des marchés de la semaine passée est majoritairement due au fait que les investisseurs redoutent un Frexit plus ou moins déguisé. Bon,
mais peut-être juste pour alors, boucler ce que vient de dire Laurent,
et
c'est
Benjamin
vrai que
je
garde toujours ce souvenir un peu, avec le recul, choquant de se dire, on vient d'étudier je sais pas, la préparation de la Seconde Guerre mondiale, le réarmement allemand, et pendant ce temps-là, on faisait les congés payés à Paris. Enfin, il y a une tension généralisée, on est en train de regarder effectivement notre situation. Alors, idéalement, on devrait avoir une capacité à avoir une union des forces pour essayer de résister à tout ça. Je trouve que vous avez défendu effectivement un plan de rupture. Vous l'avez dit vous-même, il y a une rupture. En revanche, je regrette que vous n'ayez pas eu à cœur de mettre des entrepreneurs autour de vous, de réfléchir à ce qui est notre préoccupation commune, parce que je vous assure qu'elle est réelle. Lorsque pour avoir réussir à mettre 100 euros dans la poche de nos collaborateurs, on est obligé d'en débourser 350 à 400.
Au niveau du SMIC, SMIC, c'est
d'accord.
Ça.
D'accord.
Je le précise, parce que c'est là où il y a zéro cotise patronale ou quasiment.
Bon, donc, on est devant une problématique qui est une problématique de modèle. Donc, on peut travailler ensemble à se dire comment est-ce que l'on a une rupture pour que les grands équilibres changent. Parce que l'on voit bien que l'on est sur un déséquilibre de nos comptes et une insatisfaction généralisée. Encore une fois, qui est la rupture de la promesse que le travail doit payer. Lorsqu'un jeune commence à travailler, il doit se dire, waouh, c'est super, je suis rentré à la vie active. Or, c'est une frustration permanente. Et ça, nous sommes à vos côtés pour essayer de trouver des solutions. Mais vous l'avez fait totalement à rebours de nous.
Justement, c'est l'une des mesures, dans cette chronique avec Pierre Gattaz, c'est l'une des mesures concrètes que vous mettez en avant. Il faut plafonner à 20% du salaire brut les cotises sociales, dites-vous, et donc aller chercher 0,5 à 1 point de TVA.
Et un point de TVA, et notamment parce que ça permettrait de faire payer toutes les importations que nous avons qui ne contribuent en rien au financement de notre modèle social. Mais pardonnez-moi, Benjamin Coria, parce qu'il y a d'autres éléments qu'il faudrait aussi avoir à l'esprit. Ce que Laurent souligne sur la polarisation et la violence dans la société, comment voulez-vous que l'on entreprenne lorsque on a dans des villages, dans des villes, des poussées de violence, et que en 3 heures de temps, vous avez le travail de toute une vie qui est saccagé. La nécessité de remettre la société en ordre.
Ça, c'est le mantra du RN. Hein.
Non, mais je ne sais pas si c'est le mantra du RN.
Ils ont décalé des mesures éco pour dire que la priorité.
D'accord. Voudrais vous le dire, et personne ne peut soupçonner un instant que je puisse avoir la moindre sympathie pour le Rassemblement National. Mais si on prenait les problèmes et qu'on y apportait des solutions. Le RN ne montrait pas. On ne peut pas dire, parce que c'est compliqué de trouver des solutions à des problèmes réels, la sécurité, l'immigration quand elle ne réussit pas, un certain nombre de sujets qui sont dans l'ADN du RN, comment a-t-on pu laisser au RN l'exclusivité de prendre ces sujets à bras-le-corps, les autres disant si on s'en occupe, c'est qu'on devient RN. Ça fait partie d'une république normale de traiter les problèmes lorsqu'ils apparaissent. Les nier, c'est
vous,
juste donner une autoroute aux extrêmes. Ça, c'est un véritable
problème. Des années de déni lorsqu'effectivement ces thématiques étaient notamment à l'époque le fer de lance du discours de l'ancien.
Ça fait partie de la préoccupation des entrepreneurs. Alors, et bon, juste pour avoir peut-être pu après, Benjamin. Je voudrais rendre hommage à Laurent Vronsky, qui est l'un des meneurs de Espérance Banlieue. Ce que font les entrepreneurs pour prendre des sujets comme cela à bras le corps est absolument exceptionnel. Et je trouve, voyez-vous, que l'on pourrait aller regarder ça ensemble.
Espérance Banlieue est une initiative d'enseignement scolaire pour les milieux différents. difficile, totalement pris
sur le programme du RN.
Et nous avons ouvert notre 18e école.
Allez-y, bon, Benjamin, allez-y.
On dérive sur le programme du RN.
Non, mais on dérive pas.
Parce que parce que j'aurais beaucoup de choses à dire et je vais juste quand même donner le message.
Allez-y.
Le programme du RN, c'est une chose invraisemblable. Parce que
le programme
c'est...
quoi, éco?
Le programme éco, bien sûr.
Il est de gauche.
Parce que c'est un programme, mais enfin,
il est de gauche,
c'est un programme,
programme qui
met la xénophobie au centre, au centre du programme économique. Ça veut dire que si vous cherchez les économies annoncées par le RN, il y en a 35 milliards sur de l'argent qu'on ne va plus donner aux immigrés.
Mais c'est
pratiquement, il n'y a rien d'autre.
Les montants ne sont pas crédibles.
Mais c'est, en plus, c'est totalement incrédible parce que c'est des mesures inconstitutionnelles, parce que jusqu'à présent, nous sommes en République.
C'est effectivement, vous avez raison, constitutionnellement.
Le RN a l'air de l'avoir oublié. La moitié des mesures sont anticonstitutionnelles.
Pas la moitié, je ne sais pas, en tout cas, constitutionnellement, il ne peut pas y avoir de rupture.
Les mesures, soi-disant, de dégrèvement des impôts pour les jeunes de 30 ans, c'est contraire au principe de l'égalité devant l'impôt.
Ils ont renoncé à celle-là.
Préférence nationale introduite comme elle est, c'est contraire et le Conseil d'État l'a déjà montré. Bon, donc c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bien. Donc, on ne parle pas de ça si vous voulez. Moi, je reviens quand vous voulez. Alors maintenant, je vais reprendre ce que vous dites. Moi, je suis très sensible à ce que vous dites, hein, et y compris cette action dans les quartiers, etc. J'y suis extrêmement sensible. Alors, j'ai deux choses à dire. Bon, premièrement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je suis complètement extérieur à toute la machinerie politique de ce qui est en train de se faire. Hein. Moi, je suis un économiste de gauche, on va dire, externe, et c'est comme tel.
Non, mais vous n'êtes pas dans l'NFP en train de rédiger le truc. Je suis d'accord.
Il
ne
faut pas qu'il y ait d'ambiguïté.
Non, mais il n'y a pas d'ambiguïté.
Rien à voir avec la machinerie politique. Rien. Bon. Alors, quand vous dites « il faut être raisonnable », eh ben oui, moi je suis d'accord avec ça.
Il faut être pragmatique.
Oui,
pas raisonnable. Pragmatique.
Non mais, la question que je pose c'est, est-ce qu'on est raisonnable lorsqu'on impose une réforme aussi majeure que la réforme des retraites contre 80% du peuple, hein, sans la faire voter par personne? On est raisonnable quand on fait ça? Non, on provoque cette polarisation aux extrêmes. On est raisonnable quand on... dans le niveau d'inégalité qu'on a aujourd'hui, on va chercher 2 ou 3 milliards sur le dos de l'assurance chômage. On est raisonnable? Non, on n'est pas raisonnable. C'est ça le fond de la question. Bien, et je pourrais continuer. On est raisonnable quand on annonce une taxe sur les surprofits invraisemblable, hein, qu'on fait les pétroliers, les gens du transport maritime, ceux de la pharmacie, et qu'on récupère 350 millions. On est raisonnable? Non, on l'est pas. Dites-le.
Benjamin, il est vrai que ça a été un échec total, cette taxe. Mais ils ne sont pas responsables, mes chefs d'entreprise, en face de vous.
Donc, il faut faire autre chose.
Mais parce que nous aussi, on n'est pas partie prenante à la politique, vous savez.
Donc, il faut faire autre chose. Donc, vous voyez...
Enfin, je précise que le dernier rapport du COR, signé Gilles Berset notamment, a indiqué que les actuels 64 ans ne suffisaient déjà pas à trouver l'équilibre dès 2024.
Mais Gilles Berset, il a été placé là pour dire ça. Je veux dire... Mais
non, on pouvait pas.
Il est au moins autant politique qu'économique.
Je vous le mettrai ici en débat, on vous débattra.
Écoutez, le limogeage de l'ancien patron du COR, il a été motivé de manière absolument politique. Bien. Et Gilles Berset, il est nommé de manière politique.
Ah, mais c'est un choix politique.
Je connais fort bien Gilles Berset, je sais de quoi.
C'est un choix politique, le COR, on est bien d'accord. Je vais me dire autre chose. Hein.
C'est un choix politique du directeur du COR.
Mais pardonnez-moi, Gilles.
Alors,
Benjamin Corrière, par exemple sur les retraites, vous pouvez pas nier qu'il y a un problème sur les retraites.
Mais bien sûr qu'il y a un problème sur les retraites, mais bien sûr, mais il y a 36 manières de le financer, de les financer, ça n'a pas été discuté. D'ailleurs, on est passé d'un truc génial par point purement conceptuel à un truc entièrement paramétrique.
Non mais ça a été discuté pendant 5 ans pour être décidé en 3 mois. Je veux bien,
il s'attaque le bilan politique.
Non mais c'est catastrophique.
Non mais je dis pas bon.
Mais
voilà.
Je suis pas en train de vous dire que c'est bon. Je vous dis simplement que le problème,
du déséquilibre des retraites est réel, et vous avez
systématiquement une recette qui est d'aller taxer les riches. Donc je veux bien. Vous avez toujours la recette.
Non, Benjamin,
laissez-le réagir aussi.
C'est quand même votre ligne permanente. On sait où il y a de l'argent et il faut le prendre là où il est. Maintenant, ça peut pas être une réponse à tout. Et là où en revanche on peut se retrouver, c'est que la réforme de l'État n'a pas été faite. Elle n'a été faite sur rien. La réforme de la décentralisation. Mais vous ne la faites pas davantage. Là encore, je ne vous comprends pas. Je comprends pas pourquoi
fois, alors que le torrent étatique est sorti de son lit et il faut le remettre parce que les dépenses explosent de partout et c'est un des raisons d'être de nos déficits permanents. Cette réforme de l'État, elle devrait nous réunir.
Attendez. J'ai dit que je suis en dehors de la machinerie
politique. Mais moi aussi, je suis en dehors de la machinerie politique.
Donc, c'est pour dire quoi ?
J'aimerais que Laurent ait la parole un peu, quand même.
C'est pour dire que si j'avais la main, c'est probablement pas ça que j'aurais fait. Bien. Ceci dit, maintenant, je dois choisir. Et en fait, en l'occurrence, c'est entre le RN et son programme xénophobe et ce que va essayer la gauche. Donc, pour moi, c'est tout choisi.
Okay.
C'est réglé.
Laurent Vosne.
Non, mais je voudrais juste vous dire quand même, monsieur Laurent.
Ah bah vous pouvez me dire, j'ai rien dit, donc ça va pas être dur de me répondre.
Je voulais dire qu'il y a une conférence nationale sur les salaires qui est prévue, et ça sera le lieu dans lequel les entreprises pourront s'exprimer. C'est ça qui est prévu. Donc je veux dire, chose par chose. Je ne dis pas que tout ça va donner des résultats merveilleux. Je ne dis pas ça. J'ai plus 18 ans, j'ai plus la naïveté qu'on peut avoir à ces âges-là. Mais je dis que il n'y a pas d'autre solution que de prendre l'autre voie.
Il y a John qui me dit, et la gauche antisémite, vous en parlez? Je lui réponds non, John, pas ici, on parle d'économie, là, c'est un peu au-delà. Laurent Bronski.
Donc sur les salaires, je rassure M. Coria, moi j'ai pas besoin d'une conférence pour en parler, j'en parle quasiment tous les mois, et ce depuis 35 ans. Et en plus je les verse, donc ça je pense que, si vous voulez, je pense avoir une vision assez concrète de la chose. Alors, je vais revenir sur le mot que vous avez employé, j'ai pas dit raisonnable, j'ai parlé de pragmatisme. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de pragmatisme et pas de dogmatisme. Simplement, ce qui est une évidence, et là je n'invente rien, c'est que quand on a un pays qui est polarisé, j'ai repris quand même plusieurs entreprises dans ma vie et j'ai dirigé pas mal d'équipes. Quand vous avez des équipes qui sont polarisées, peu importe le côté, c'est quelque part un signe qu'on vous envoie, c'est un symptôme. Et c'est un symptôme d'un pays qui finalement n'existe pas. Je veux dire, c'est Berlin-Est et Berlin-Ouest. Donc ce qui est une évidence, c'est que là aujourd'hui, on est dans cette situation. C'est pas arrivé la semaine dernière, c'est le fruit de beaucoup de choses. Vous en avez parlé tous les deux, je suis d'accord avec la plupart des constats, je suis juste pas d'accord avec certaines des solutions. Je pense qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans cet état de polarisation, de pointage de doigts, c'est ta faute, c'est pas ta faute, t'aurais dû venir faire ça, t'aurais dû dire ça. Je veux dire que je dis simplement qu'au niveau économique, et encore une fois, je connais l'économie parce que je la vis, je dis qu'on est dans une situation qui est extrêmement fragile, extrêmement nerveuse. Ce que je trouve très préoccupant, c'est que moi je vois des chefs d'entreprise toutes les semaines, ce que j'entends depuis 8 jours, c'est on met le pied sur le frein. Donc avouez que c'est quand même assez schizophrénique. Je veux dire, il y a encore 15 jours, on accueillait des chefs d'entreprise du monde entier pour vendre le pays. Et moi, ce que j'entends depuis 8 jours, c'est « oulala, on va voir ce qui se passe après les élections ». Ça, c'est pas bon. Je rappelle une chose, c'est qu'on a comme un budget qui tient avec des bouts de ficelle, qui table essentiellement sur des prévisions de croissance. Je n'ai pas vos compétences, monsieur Coria, en économie, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'en tout cas, juin, juillet, août, puis je vais rajouter mai où il y a eu les ponts et les viaducs, je pense que là, les prévisionnels de croissance ne vont pas être tenus. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à l'instant T, déjà, ça va commencer à tanguer. Après, qu'il y ait des réactions, je dirais, assez violentes, ça souligne précisément la météo dans laquelle nous évoluons.
Dans la météo, il y a des éléments très concrets en une semaine. Nicolas, il y a des projets de fusion-acquisition qui ont été mis sous silence parce que l'incertitude est trop grande. Et le fameux Biogarant, le fabricant de médicaments génériques de Servier, dont la vente aux Indiens inquiétait tant, il n'y a plus d'Indiens pour acheter depuis quelques jours parce qu'ils savent tellement. Ben voilà.
Très bonne
nouvelle. Au moins, Bercy n'aura même pas eu à intervenir. Le bordel ambiant politique a suffi à faire suffisamment peur aux investisseurs indiens pour se dire on verra, c'est plus du tout sûr qu'on soit.
Je voudrais proposer
tant mieux. Au moins, là,
c'est positif.
Et encore une fois, je mets davantage cet effet lié à l'annonce de la dissolution qu'au programme qui n'était pas encore vraiment dévoilé.
Bon, j'entends une
Laurent, j'aimerais qu'on dise un mot aussi de ce que Attal a annoncé.
Concernant, je veux dire que nos compatriotes, je veux dire, expriment à travers leur vote toute une série de choses. Il y a des préoccupations économiques, il y a des préoccupations sécuritaires, tu en as parlé, il y a aussi des préoccupations philosophiques. Et donc, j'insiste sur le fait, parce qu'il y a beaucoup de parallèles dans l'entreprise, quand vous avez des équipes qui sont divisées, qui se font la guerre, je veux dire que l'idée, c'est pas un concours de beauté, c'est pas d'être sympathique à tout le monde, mais en tout cas, c'est d'essayer de trouver un moyen opératoire pour que, globalement, on fasse avancer les gens dans la même direction. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, effectivement, sur certaines réformes de fond, on ne peut pas fonctionner en top-down. L'entreprise le vit depuis 30 ans. C'est l'une des révolutions du management. Je veux dire que le patron de droit divin qui dit « Yaka, Faucon, on fait comme ci, on fait comme ça, les barrettes, c'est moi qui les ai », ça ne fonctionne plus.
Léonidas, pas trop long. Je veux absolument donner à Tal le dernier élément d'actu du jour.
Juste un mot à Benjamin Coria. Je pense que vous avez un rôle majeur. Faites venir
les responsables de gauche pour dialoguer avec les entrepreneurs. L'entreprise, c'est un lieu qui rassemble. L'entreprise est un lieu, et c'est le dernier creuset solide de la société française. C'est l'endroit où des gens qui n'ont pas les mêmes croyances, n'ont pas les mêmes origines, travaillent ensemble avec un projet et avancent ensemble. Et je voudrais vous entendre tellement dire que vous allez préserver l'entreprise et que vos réformes viendront avec cette idée que on ne casse pas ce qui tient le pays. C'est ça qui tient le pays. Je voudrais qu'on partage cette conviction, et je pense que vous avez de ce point de vue-là un rôle majeur, et que vous saurez être écouté.
Non mais je vais juste un mot, hein. Aucun souci là-dessus.
Ah ben, eh bien tant mieux, et c'est très là-dessus. Précieux, et ce sera une heure que nous aurons passé ensemble.
Je pense que aller vers la démocratisation de l'entreprise, etc., je pense que vous ne serez même pas nécessairement contre, est une nécessité, mais l'entreprise comme l'un des piliers de l'économie, je crois que personne...
De la société.
Enfin, en tout cas, moi...
Et du pays.
Bon, ok. J'insiste, hein. L'essentiel des prélèvements, c'est sur les patrimoines et sur l'argent accumulé à titre personnel. Je répète, on ne touche pas l'impôt sur les sociétés. Bien. Alors, après, on va voir comment les choses vont se passer. Mais je répète, pour moi, le cadencement des mesures va être essentiel. C'est ça qui va dicter si ça va passer et comment.
Proposer aux entrepreneurs de dialoguer avec eux.
Comme vous le dites dans la chronique avec Pierre Gattaz, il faut bien en face aussi, on peut pas simplement secouer des chiffons rouges, crier au loup si on n'a rien à proposer. Gabriel Attal a lancé quelques éléments programmatiques. La prime de partage de la valeur après prime Macron. Il reste jusqu'à 10 000 euros. Il y a très peu d'entreprises qui avaient déjà donné le précédent maximum qui était à 3 000. Donc bon.
Mais, 860 euros la moyenne.
Oui, la moyenne à peu près. Attention maintenant.
Il pourrait la mettre à 30 000 sa prime maintenant.
C'est pas faux. Depuis début 2024, c'est soumis à cotisation CSG, CRDS, IR. Ça reste exonéré de cotisation sous 3 SMIC. Social, mais il y a quand même de la fiscalité. Indexation des retraites sur l'inflation, ça on l'avait déjà dit. Baisse des prix de l'électricité mi-février de 15%. Mécaniquement, ça se fait sans même que le politique ait besoin d'en parler. Une complémentaire santé publique à 1 euro par jour pour ceux qui ne sont pas couverts. Monter à 100 000 le nombre de véhicules électriques accessibles en leasing. Exonérer de DMTO les droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire, les primo-accédants jusqu'à 250 000 euros. Avec quand même justification du revenu fiscal de référence pour éviter les effets d'aubaine. Et puis un fonds de rénovation énergétique pour les logements des classes moyennes et populaires financé par une taxe sur les rachats d'actions. Il y en a peut-être quelques-unes que j'oublie. Ça vous inspire quoi, Léonidas ? Il y a une espèce de tentative de réponse. Ça fait coin de table, hein, on est bien d'accord, mais bon.
Je veux dire que c'est assez impressionnant que la gauche et la droite, l'extrême, les deux extrêmes aient été capables en une semaine de proposer des choses qui sont certes très très discutables, et que le camp qui a décidé de cette dissolution ne soit pas capable de proposer quelque chose rapidement. C'est d'ailleurs dommage parce que Bruno Le Maire a écrit un ouvrage récemment dans lequel il y a beaucoup de propositions.
6 points de cotise vers la CSG ou la TVA.
Alors, il s'agit, voilà. Oui, mais bon. C'est une transformation du modèle social, une transformation de l'État-providence en un État-protecteur. Enfin, il y a des choses. Et notamment la mise à bas du mythe de la gratuité. Si on veut globalement, et je pense que nous serons d'accord pour avoir cet objectif en commun avec Benjamin Coria, que notre pays s'enrichisse, parce que je suis paniqué par le fait qu'en dehors de l'Île-de-France, peut-être du sud de la France, on est un pays qui se paupérise. Si on veut qu'il y ait un enrichissement, il faut que l'on sorte du mythe de la gratuité, qui est une espèce de course à l'accès aux biens minimaux pour les gens qui ont très peu. Il faut qu'on ait un programme d'enrichissement, et là, ça serait un programme d'enrichissement du pays, un sujet sur lequel on pourrait attendre l'actuelle majorité et ses potentiels alliés de gouvernement.
Laurent Wonski, rapide, on a une 42 nous, pour finir.
Je trouve que, si vous voulez, ce sont des mesurettes vraiment, des choses de spécialistes. Je veux dire que quand on, là, dans le bruit ambiant, je veux dire, qui est quand même très fort, je veux dire, c'est comme si vous êtes tout seul au milieu d'une foule et puis vous essayez de vendre vos produits, vous voyez. Bon, là, je pense que, clairement, ça boxe pas dans la même catégorie. Je veux dire que les deux parties en face, les deux blocs, sont en train de proposer des choses de fond, et là, on fait de la frappe chirurgicale. Donc là, je pense qu'il faut, à mon avis, hein, je pense qu'il faut voir sa copie. Il y a des trucs qui sont très bien, mais c'est pas ça que les gens attendent.
Mot de la fin, Benjamin, on a terminé.
Non, mais j'ai J'ai presque rien à rajouter à ça. C'est absolument. Ça donne le niveau d'impréparation, quoi. C'est-à-dire la faute politique commise.
Ah, mais le chaos, l'ingénieur du chaos s'appelle Emmanuel Macron.
Et ce qui suit comme infrastructure et comme artillerie économique, c'est absolument dérisoire.
Non, mais
il a absolument raison. Il fallait qu'il dise quelque chose, voilà, il dit ça.
Non, mais le fait est que le pays a effectivement besoin de solutions de choc. S'il n'avait pas besoin de solutions de choc, effectivement, les extrêmes ne seraient pas à 60-70%. Mais s'il n'y a pas, dans le pôle central, un certain nombre de mesures absolument radicales qui amènent les Français à se dire on va redevenir raisonnable parce qu'il y a des solutions qui peuvent venir des partis de gouvernement, c'est vrai que le plus inquiétant est devant nous.
En tout cas, sachez que depuis hier est paru au journal officiel le plan Avenir Climat. Vous avez la possibilité, le 1er juillet, mesdames et messieurs, d'ouvrir pour vos chers enfants quelque chose qui a été calqué sur le livret A avec une assez bonne rémunération, un plafond à 22 950 euros pour mettre de l'argent de côté et investir pour la planète. Voilà. Ça a été publié au journal. Ça faisait partie des sujets que j'avais mis, mais bizarrement, on n'a pas eu le temps.
Tiens. Et je renouvelle mon invitation à Benjamin Coria.
Allez voir les entrepreneurs.
Venez voir les entrepreneurs.
Benjamin Coria aujourd'hui, Leonidas Kalogiropoulos, Laurent Vronsky. J'espère qu'on pourra changer de sujet cette semaine. On va voir ce que nous réserve l'actualité. À demain 9h.
Ça va être dur, je crois. Hein.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.